Pour notre deuxième rencontre, nous allons visiter la tradition grecque de l'art iconographique. Nous obtiendrons des détails sur l'écriture d'une icône, les couleurs, les personnages, les mesures, les dimensions, etc. Nous sommes dans ce monde pour nous laisser transformer par l'icône. Nous devenons fils par l'image du Fils incarné en notre chair. Nous sommes invités à faire ce mouvement double, laisser venir Dieu vers nous et l'accueillir comme le vivant et nous laisser attirer par sa présence dans l'icône afin de ne plus faire qu'un avec la divinité. C'est en cela que l'icône réveille en nous la divinité qui n'est altérée par rien. C'est ce que vous avez dit, sœur Ancilla, la dernière fois. La grâce originelle est toujours présente au cœur de notre cœur et l'harmonie des couleurs, des lignes, des traits, du visage et du corps nous rappelle que nous sommes attendus en ce monde où tout ensemble fait corps, où nous sommes les invités en un monde où nous ne sommes pas des étrangers, mais nous devenons ce que nous sommes, les habitants de la maison de Dieu. Nous sommes sa famille, nous sommes les siens, imprégnés par son sceau de salut et de vie. Nous le devenons, et de jour en jour, il nous recrée, car il est capable de refaire notre image, comme l'image originelle, car il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Entrons ensemble dans cet univers où nous sommes déjà attendus, car notre place est réservée dès avant la création du monde. Que notre regard croise celui de Dieu en nous, il sera le bienvenu en lui, nous serons les bienvenus. Ô admirable rencontre, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Amen. Je m'en étais rendu compte en lisant mon papier.
Alors, une petite introduction, ce n'est pas encore la méditation de l'icône, mais c'est pour vous parler de l'orthodoxie, d'où viennent les icônes, et pourquoi je me suis mise à écrire des icônes. Je vais vous dire pourquoi j'utilise ces mots. Alors, quand il y a eu le concile, vous savez, pour l'unité des chrétiens, il y avait toute une partie. Et très vite, au début, ils mettaient « aller vers ». Vous, catholiques, allez vers. Vers les orthodoxes, les anglicans, tous les frères chrétiens. Et en même temps, en ce temps-là, au monastère, nous avions des conférences une fois par an par le père Le Guillou, un dominicain qui était très, très ami avec des orthodoxes, et tous les ans, il allait au mont Athos. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais c'est le bras d'un... c'est une presqu'île au bout de la Grèce, entourée par la mer, et tout du long, c'est une colline, et tout du long, oh non, c'est plus qu'une colline, parce que tout en haut, ça monte très haut. Il y a plein de monastères, il y a 20 monastères sur cette petite branche de terre qui va dans la mer. Et c'est plein de monastères orthodoxes, bien sûr, plus ou moins amis avec les catholiques. Alors ce père dominicain, il allait chez eux. Et quand il venait chez nous, il nous apportait des vues. Il avait un appareil pour nous montrer toutes ses beautés. Alors tout ça, ça entrait dans mon cœur et puis je le gardais. Et puis un jour, le père Vesco, qui vient de mourir maintenant, il y a un dominicain, il accompagnait des croisières. Et il se trouve qu'une fois, il est allé dans l'île, dans une des îles grecques, où nous avons aussi un monastère de dominicaines au beau milieu de l'île. Ça s'appelle Santora. Il y en a quelques-uns qui le connaissent. Alors, je pensais à ça, et puis je commence à en parler à la prieure. Et comme elle voyait que vraiment j'étais prise par l'unité des chrétiens, et donc pour aller vers, puisqu'ils disent aller vers, elle a dit oui. Bon, la prieure disant oui, on en parle à l'évêque, qui nous connaissait un peu parce qu'il nous visitait de temps en temps, Monseigneur Donze, et il dit oui. Et la communauté, mais oui. Alors, je suis partie. En Grèce, tous les monastères, dans presque tous les monastères, il y a une ou deux sœurs qui peint des icônes. Alors, on ne dit pas peindre, on dit écrire. J'écris une icône parce que vous allez la lire. Je l'ai écrit de telle façon, le père vous en a parlé un peu, vous allez regarder les gestes qui signifient quelque chose. Nous allons le voir tout à l'heure. Le mot icône, ça veut dire image. Icône en grec, en français aussi, mais ça veut dire image. Alors après, l'évêque catholique de Syros, c'est-à-dire en Grèce, il y a plein de petites îles, vous savez, au milieu des Cyclades. Hein, et nous dépendions de Syros, où il y avait l'évêque catholique. Parce que là-bas, tout est catholique orthodoxe. Hein, il y a un évêque catholique, un évêque orthodoxe, un couvent catholique, un couvent orthodoxe. Alors nous, évidemment, dominicaines, nous allions, lui venait nous voir à Santora. Alors on lui dit, est-ce qu'elle peut apprendre à peindre ? Oh, mais bien sûr, mais oui, je vous donne une adresse et elle va descendre à Athènes. Là encore pareil, c'était une clinique de sœurs catholiques. Mais elle soignait tellement bien les gens qu'il y avait beaucoup d'orthodoxes qui venaient se faire soigner chez elle. Et parmi eux, le fils écrivait des icônes. Alors évidemment, elle lui demande, il ne peut pas dire non. Il était au contraire très content d'avoir une sœur catholique qui s'intéressait aux icônes. Et il me dit, voilà... tous les deux jours, vous venez à tel endroit, je suis en train de peindre une chapelle, mais à côté j'ai mon bureau, je vous donnerai du travail à faire, et voilà. Alors, ce qu'il me donnait, je l'ai encore, c'était des visages. Il m'a dit, si vous savez peindre un visage, après le corps, vous avez un modèle et ça suffit. Mais, pour peindre, notamment... Les évêques, les prêtres, les moines, pourquoi il a des cheveux comme ça là-bas? Ils ont la barbe bien et la moustache bien arrangée. Vous avez l'air d'un jeune prêtre orthodoxe. Alors, c'est très difficile à peindre. Une photo, c'est tout facile, mais pour peindre tout ça, Alors, il me donnait des modèles et c'était tous des moines. Parce que selon ils disent pas l'ordre, mais selon le monastère, alors on a les cheveux coupés un peu comme ça, on a la barbe carrée ou pas, enfin, c'est, il y a des petites nuances, et ils voulaient que je les repère avec les yeux et que je sache après les peindre. Donc j'ai 8 tableaux de moines, et voilà, mon étude de l'iconographie, c'était ça. Alors, quand je suis... Oui, il n'y a pas... Alors, pour Santorin, les dominicaines de l'île de Santorin, on avait dit 3 ans. Au bout de 3 ans, je suis revenue à Lourdes. Et j'ai dit à la prière, alors, qu'est-ce que je fais maintenant ?
3 ans.
Tu peins des icônes, hein, tu as appris si bien là-bas, tu peins des icônes. Alors, on m'a donné des cellules, des petites chambres en plein sud. Une pour le plâtre, parce que il vaut mieux que je vous les dise un petit peu maintenant. Une icône. Il faut d'abord trouver une belle planche, du tilleul, de l'acacia, quelque chose de pas trop lourd. Mais là, j'ai fait une exception parce qu'à ce moment-là, on n'avait pas encore une bonne menuiserie et je crois bien que c'est du chêne, mais enfin, c'est une exception. Donc, vraiment, il ne faut pas que ce soit trop lourd. Pour les prêtres, quand ils les portent pour les bénédictions ou pour... et pour les fidèles, pour les transporter, donc pas trop lourd. Et on commence par coller un tissu, un joli tissu léger, très fin, un peu transparent. Parce que sur ce tissu, vous allez passer du plâtre. C'est ce qu'on appelle armer l'icône. C'est une armature qu'elle, si vous peignez directement, au bout d'un an, de 2 ans, le bois bouge et la peinture éclate. Tandis que là, si vous avez un bon tissu, 10 couches de plâtre, une seule couche par jour pour qu'elle ait le temps de sécher, et au bout de 3 semaines, que ce soit bien sec, on parle toujours de sécher, vous pouvez commencer à peindre. Alors, comment ? Je voulais parler des bonnes cases. On verra, je ne voudrais pas, il faut que je garde ma... oui, bon. Alors, je peux vous dire, d'ailleurs... on fait le dessin, grosso modo, comme ça, pour savoir où sera le ciel, où sera la terre, s'il y a des personnages qui vont monter dans le ciel, ou s'il y a un personnage dans le ciel. Vous faites un petit schéma comme ça, pas au crayon, parce que le crayon, après, il va se répandre, il va faire du jus noir. Vous prenez un petit pinceau fin à l'eau et vous faites votre dessin. Comme ça, sans détail. Pour savoir où est-ce que vous allez poser l'or. Et quand vous avez décidé comme ça, c'est vraiment le modèle, vous mettez une colle spéciale. Ça s'appelle vernis colle d'or. Ça se vend dans des magasins spéciaux. J'en ai encore un peu, mais c'était à Pau. Je n'ai rien trouvé de bien à Lourdes, ni à Tarbes. Alors, à Pau, j'ai trouvé une bonne colle. Et alors, vous mettez... Partout où vous allez avoir l'or, vous mettez du rouge. Parce que quand vous allez arriver avec vos feuilles d'or, s'il y a un tout petit peu d'or qui éclate, par-dessous, vous allez voir des petits filets rouges. C'est très joli. Alors, vous faites du roux au pignon rouge, et puis quand c'est sec, vous mettez donc votre col d'or, et vous arrivez avec vos petites feuilles d'or. Ça, c'est très délicat. Vous mettez partout où vous en avez. Puis vous attendez 4-5 jours. Tout dépend du ciel, bien sûr. Mais vous attendez que ce soit très sec. Et quand c'est sec, avec un pinceau, délicatement, vous retirez l'or qui vous servira plus tard pour faire des détails, des raccommodages, et vous ramassez l'or. Bon, vous êtes prêts à peindre maintenant. Vous avez le fond d'or. Retenez-le, il faut toujours commencer par le fond. Parce qu'il y en a qui vous disent, ah non, il faut faire la peinture d'abord. Commencez par le fond. Parce que votre peinture va recouvrir un petit peu l'or, si l'huile il a débordé un petit peu, et que ce soit tout bien net. Et voilà, vous commencez à peindre. Alors, on dit iconographe, parce que grapho, ça veut dire écrire, j'écris les icônes, donc iconographe. Et vous allez la lire. Oui, dans les pays orthodoxes, il y a toujours des sœurs qui peignent. Partout où je suis allée, il y avait toujours une ou deux sœurs qui peignaient, parce qu'on en demande tellement. Et puis, à l'entrée des monastères, on commande les icônes, ou bien elles sont là, on les achète tout de suite. Enfin, il y a beaucoup de demandes d'icônes, puisque c'est l'orthodoxie. Alors pourquoi on écrit des icônes? Pour prier avec elles. Ce n'est pas un tableau d'art de décoration, c'est pour prier. Et ça, je l'ai vu dans les églises, des petits-enfants, ils quittent leurs parents. Les parents sont au milieu de l'église, ils suivent la liturgie, ils prient, ils sont debout. En général, on est toujours debout chez les orthodoxes. Et alors les enfants, c'est debout comme ça, une heure et demie, ils circulent le long des murs, et c'est très drôle, ils ont les mains derrière le dos, et puis ils regardent les fresques. Et je me dis, ils font leur culture religieuse avec toutes ces fresques. Alors les fresques, c'est un autre système que la peinture d'icônes, hein. Mais c'est très beau là dans les églises orthodoxes. Voilà. Alors, je vous ai dit à l'œuf. Non, je ne vous l'ai pas dit, c'est peinture à l'œuf. Alors, il faut aller à la cuisine et puis demander un bain d'œuf frais. Et puis, vous le cassez et vous le mettez dans votre main. En essayant de ne pas le crever, il faut qu'il soit bien frais, qu'il tienne bien. Vous mettez dans votre main, alors il y a tout le glaire qui tombe dans le pot, vous mettez encore 2-3 fois dans la main, et la dernière fois, vous arrivez avec une épingle, vous le crevez, et vous avez un petit gobelet, vous faites tomber le jaune, que le jaune. Puis après, ce jaune, vous allez mettre 3 quarts de vinaigre. Ça, c'est la méthode grecque. Les Russes, c'est plus liquide. Bon, ça dépend des pays, hein. Mais enfin, j'ai appris comme ça va bien. Voilà, donc on l'appelle peinture à l'œuf, pas peinture à l'eau. Alors, quand on est devant une icône, c'est pour parler au Seigneur et pour l'écouter. Alors, à un moment, nous avions l'école de l'Évangile ici, et j'avais fait un cours sur chaque icône. Il y a 12 icônes dans les églises. Hein, quand vous arrivez tout en haut, il y a 12 icônes. Et alors, excusez-moi si c'est un peu spécial, mais je vous lis telle que la liturgie orthodoxe que je lisais à l'école de l'Évangile. Alors voilà, aux premières vêpres de l'Ascension, sans quitter le Saint Paternel, partageant sur terre notre humanité, très doux Jésus, tu remontes en ce jour vers le ciel, glorieusement, depuis la montagne des Oliviers, relevant par compassion notre nature déchue, pour l'associer à côté du Père, avec toi, les puissances incorporelles, ce sont les anges, dans les cieux, frappés d'admiration et d'effroi, magnifie l'amour dont tu aimes les humains. Alors, voyez, cette prière orthodoxe, elle a des mots un peu compliqués, mais elle vous raconte tout le mystère de l'Ascension. C'est très beau, c'est un peu difficile, hein, il faut s'y habituer, et puis il faut traduire certains mots. Alors moi je commente, au centre de cercles concentriques représentant le ciel, ce centre concentrique, c'est ce qu'on appelle la mandorle. Alors, le Christ bénit de la main droite. Toujours, bien sûr. Et de la main gauche, il tient le rouleau. Celui-ci représente la parole que Jésus a enseignée sur la terre. Vous montrez, je n'ai pas assez de photos, vous voulez montrer, ça, on les connaît. Oui, je les connais. Alors passez-vous les photos, parce que j'en ai pas beaucoup. Et c'est vraiment un peu difficile. Alors, la parole que Jésus a enseignée sur terre, la loi d'amour. Il porte une tunique blanc et or. Ça aussi, c'est le signe de la gloire et de la résurrection. On a déjà fêté la résurrection et on rappelle cette joie. On le voit ainsi vêtu sur les icônes de la transfiguration. Alors là, si nous sommes là, on en parlera aussi, la transfiguration et de la résurrection. La résurrection, vous l'avez... oui, elle est à la chapelle, à gauche, près des marches, en haut à gauche, la résurrection. Alors, les orthodoxes prient de cette façon, à ce moment-là, « Ayant accompli en notre faveur ton œuvre de salut, après avoir uni les cieux et la terre, et les hommes avec Dieu dans la gloire, ô Christ notre Dieu, tu montres vers le ciel sans pour autant nous délaisser, mais restant toujours parmi nous et disant à ceux qui conservent ton amour, je suis toujours avec vous. » C'est dans Matthieu 28, 20. Et au rite byzantin, c'est dans les matines de l'Ascension, le kondakion. Ils ont des termes grecs. Deux anges s'entretiennent avec le Christ. Là. En haut, Alors, une prière. Lorsque tu arrivas sur le mont Béthulie, ô Christ, parachevant le dessein bienveillant de ton Père, les anges furent émerveillés dans les cieux. Alors, nous continuons notre description. Sur l'icône, les anges aux vêtements rouges et bruns, couleur de sang et couleur de glaise, représentent la nature humaine. Vous voyez, tout est symbole. C'est pour ça qu'il ne faut pas peindre n'importe comment, n'importe quelle couleur. Aux deux grands moments de l'histoire de notre salut, les habitants du ciel descendent sur la terre. L'ange de l'Annonciation, l'ange de la Passion. Jésus remonte au ciel, marqué par les blessures de la crucifixion. Quant aux deux anges vêtus de blanc, en bas, ils rappellent ceux de la résurrection et représentent la nature divine descendue parmi nous. Alors voilà, cette couleur de terre, ils montent, cette couleur de ciel, ils descendent. Ils sont vêtus de tuniques éblouissantes de lumière. Ça, c'est difficile de le faire hein, en peinture. Enfin, il faut avoir des bonnes peintures. Et ils annoncent aux apôtres le retour du Christ en gloire, la parousie, la fin des temps. Alors voilà la prière. Des anges aux splendides vêtements volèrent alentour des apôtres en disant « Hommes de Galilée, comme Jésus, l'homme Dieu, s'est éloigné de vous, il reviendra de nouveau en sa divino-humanité pour juger les vivants et les morts, accordant aux fidèles la rémission des péchés et la grâce du salut. Juste au-dessous du Christ, et dans le même axe que lui, se trouve Marie, la Sainte Mère de Dieu. Pour accomplir, Seigneur, en ta bonté, le mystère caché de toute éternité, tu viens avec tes disciples au mont des Oliviers, en compagnie de celle qui t'enfanta, Seigneur et Créateur de l'univers, car, étant mère, elle a souffert plus que tous en ta passion et mérita de goûter la suprême joie de te voir glorifié dans la chair. Et nous-mêmes, prenant part à cette joie en ce jour, en ta céleste ascension, nous glorifions, Seigneur, ta miséricorde envers nous. Ainsi chante la tradition orientale, et c'est pourquoi l'iconographe représente Marie au milieu des apôtres. Si on trace une ligne verticale au milieu de l'icône, reliant Jésus et sa mère, et une ligne horizontale suivant le contour de la montagne et des oliviers, on obtient une croix. Alors voilà trois prières de la croix. Seigneur, j'ai entendu ta voix. J'ai reconnu la puissance de ta croix, puisque par elle fut ouvert le paradis. Et j'ai dit, gloire à ta puissance, Seigneur. Une autre prière. En ta chair, ô notre Dieu, tu as souffert. Des morts, tu es ressuscité, triomphant de la mort. En gloire, tu es monté vers le ciel. troisième prière, nous prosternant devant ta passion, nous vénérons ta sainte résurrection et nous glorifions ton ascension. La Sainte Mère de Dieu, on l'appelle toujours comme ça dans l'orthodoxie, la Sainte Mère de Dieu, au milieu des apôtres, est immobile et paisible. D'une main levée, elle témoigne de sa foi et calme les inquiets. Vous voyez des apôtres qui sont « Oh là là, il s'en va, et qu'est-ce qu'on va faire ?» Calmez-vous. Bien droite, dans une attitude de prière avec les apôtres, qui lève la tête vers les anges et font de grands gestes, elle représente l'Église sur laquelle Jésus va envoyer son esprit le jour de la Pentecôte pour la vivifier et la lancer à travers le monde. Vous voyez, il n'y a pas un petit détail qui ne soit un symbole de quelque chose, plein de symboles. C'est pour ça que si on peint comme ça vous pense, il n'y a plus ce grand symbole de l'Église. Encore une prière, comme un baptême où les péchés sont effacés, recevez l'Esprit soufflant la flamme en fraîche rosée, vous que l'Église rend lumineux. Encore une prière. Ô Christ, lorsqu'élevant les mains, tu bénis ta mère et tes disciples, venez ensemble à Béthanie, et qu'à leur vue, la nuée lumineuse t'enleva, tu montas dans la gloire et tu apparus à la droite du Père dans les cieux, recevant la même adoration. À toutes les heures liturgiques, hein, que les verbes et l'autre, la liturgie, l'Orient chante, dans la gloire tu t'élèves, ô Christ notre Dieu, comblant tes disciples de joie par la promesse du Saint-Esprit, leur donnant force et de tes mains les bénissant, car tu es le Fils de Dieu, le Rédempteur du monde. Mais dans une autre prière, il y a la joie, mais un peu mêlée de crainte. Rédempteur du monde, ô Christ notre Dieu, les apôtres contemplant ta divine exaltation te magnifient dans la crainte et l'allégresse. Vous voyez, les attitudes traduisent la confiance, la crainte. Qu'est-ce qui va nous arriver maintenant ? L'écoute fait partie de la liturgie. Et sur elle, on doit pouvoir lire le mystère de la fête. Hein? Si vous allez à la chapelle, que vous regardez une autre fête, en ce moment la résurrection, c'est pas du tout l'icône de l'ascension. L'icône de la Pentecôte, chacune a vraiment est typique. C'est pourquoi l'apôtre Paul est représenté à la gauche de la Mère de Dieu. Ah, qu'est-ce qu'il fait là, Saint Paul? Alors,
à sa gauche ou à la gauche?
Il est représenté à la gauche de la Mère de Dieu, alors que Pierre est à sa droite. Vous les voyez? Alors, il fallait vraiment qu'on ait Pierre et Paul. Alors, donc, c'est intemporel. Alors là, c'est parce que ce sont les deux colonnes de l'Église, les fondements de l'Église. Alors, ils sont 12, et puis ils sont 12 avec Paul, puisque Judas est parti, et que Matthias n'avait pas encore été élu. Mais ça fait quand même 12 avec saint Paul. Là encore, c'est dans l'orthodoxie, on fait très attention aux chiffres. Il y a des symboles. Là, il fallait qu'il y en ait 12. Alors, on a mis saint Paul. Pierre et Paul, fondement de l'Église. Ainsi, ils sont 12, bien que Matthias n'ait pas encore été choisi. Mais ce n'est pas une icône historique, c'est une icône liturgique. Vous voyez bien la différence. Puisqu'il a vu le Christ ressuscité sur le chemin de Damas, Paul mérite de représenter tous ceux qui confessent le Christ. Et l'iconographe fait éclater les limites des temps et de l'espace. Les apôtres sont vêtus de couleurs différentes et sont dans des attitudes très diverses. Comme ça, oh, comme ça, oh, là. Leur pensée. Tout ceci symbolise les différentes langues utilisées pour annoncer la bonne nouvelle, l'Évangile, en des pays différents, par des moyens très divers. Vous voyez comme tout est symbole, hein? Un tout petit détail, c'est un grand symbole d'Église. Venez tous les fidèles, gravissons la sublime montagne des Oliviers. Et là, comme les apôtres réunis, élevons nos cœurs et nos esprits pour contempler le Seigneur s'élevant. Et dans l'action de grâce, crions-lui joyeusement, gloire Seigneur à ta divine ascension. Et voilà. S'il y a des questions à poser.